essayer d'échapper un peu à tout ce débat polémique qui, pour les uns, revêt quasiment une question existentielle et concerne l'importance et de leur foi et remettrait en cause tous les fondamentaux même de leur vie, tandis que pour d'autres, cela remettrait en cause l'honnêteté de leur démarche rationnelle. Et si bien que finalement, que ce soit aux États-Unis où le débat est souvent très polémique, mais aussi en France, les protagonistes de l'une ou de l'autre position ont bien du mal à s'écouter, à s'entendre, sans parler de se comprendre, évidemment. Et il nous semble que, et en tout cas c'est ce que Jean-Pascal Sanchez va essayer de nous expliquer ce soir, qu'il y a peut-être un autre temps, puisque ces questions d'évolutionnisme et de créationnisme posent la question fondamentale du temps, et qu'il y a peut-être un autre temps qui finalement échappe à l'homme, et que ce temps-là, c'est le temps de Dieu, le temps de la Bible. Alors Jean-Pascal Sanchez est ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon. Il est agrégé des sciences de la vie et de la terre, enseignant dans le secondaire. Et je vous propose donc de l'écouter. Nous allons lui laisser le temps qu'il faudra pour nous présenter ce sujet complexe. Comme il dit, deux siècles de science, difficile à résumer en une demi-heure, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit côté tortionnaire. Donc si en une demi-heure il n'y aura pas, on lui laissera bien quelques minutes de plus. Et puis ensuite, on essaiera de débattre et d'être suffisamment libre, même si on est quand même très nombreux, pour participer donc, et faire part, que chacun puisse faire part des éventuelles remarques ou des questions qui lui sont survenues pendant l'exposé de Jean-Pascal. Voilà Jean-Pascal, je te laisse la parole.
Merci. Alors, en fait, je pense quand même que le titre, on l'a élaboré ensemble avec Franck, mais ça aurait été plus exact quand même d'intituler le sujet « Entre créationnisme et évolutionnisme, le temps de Dieu selon la Bible ». Alors bon, peut-être que la nuance n'est pas facile à saisir ici. Peut-être d'abord, pour commencer, définir ce que c'est que l'évolutionnisme et le créationnisme, ce qui n'est pas très simple. Alors, je vais donner deux définitions au sens large pour qu'on puisse bien se positionner. Ces définitions que je donne, je les ai tout simplement prises, notamment la première qui concerne le créationnisme. Je l'ai pris donc dans un article du Nouvel Observateur où il y avait eu tout un dossier sur ce thème-là. Et donc l'auteur Mark Silberstein dit que le créationnisme, en tout cas sa définition au sens large, peut être la suivante. Toute théorie du monde postulant ou tendant à prouver qu'une force surnaturelle élabore le monde est un créationnisme. Donc dans ce cadre-là, le déisme de Voltaire peut être considéré comme un créationnisme. Voilà. Ça, c'est la conception, disons, au sens large. Maintenant, il y a une définition au sens strict du créationnisme, qui est celle, disons, que l'on retrouve beaucoup dans au niveau de la conscience populaire. C'est celle, disons, qui est calée sur le fondamentalisme américain. Voilà. C'est-à-dire que est créationniste celui qui a une lecture littérale de la Genèse. Voilà. En tout cas, c'est souvent ce créationnisme-là, dont la définition est plus stricte que celle que je viens de donner précédemment, qui est, disons, reconnu comme le créationnisme, disons, qui a le plus d'impact sur les autres et contre lequel l'évolutionnisme va particulièrement lutter de manière très intensive. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que c'est que l'évolutionnisme, par contre ? Alors, à l'inverse, je vous donne une définition qui est celle du systématicien Ernst Mayr, qui est un très grand systématicien du XXe siècle, qui a dit « C'est une conception du monde fondée sur la certitude que l'univers, les étoiles, la Terre et l'ensemble du monde vivant ont subi une longue évolution qui n'a obéi à aucun programme préétabli et s'est déroulée progressivement selon une série de phénomènes naturels commandés par les lois ordinaires de la physique. » Voilà, on peut définir l'évolutionnisme de cette manière-là. Alors, bien entendu, comme l'a précisé Franck, le problème du temps n'est pas un problème secondaire dans le débat qui va opposer évolutionniste et créationniste. Et Darwin l'avait très très bien compris, puisque lorsqu'il a fait son voyage de 5 ans sur le navire qui s'appelait le Beagle, de 1831 à 1836, il a emporté dans ses malles un livre qui a fondé, on peut dire, la géologie moderne, un livre écrit par Liel, qui est un Écossais. et qui parle justement de la notion de temps. Et il a été extrêmement, disons, ça a permis de participer à la mise en place de sa théorie de l'évolution, puisque dans ce livre-là, le géologue Liel envisageait pour la Terre un âge colossal, pour ne pas dire qu'elle était éternelle en fait. Donc ça allait dans le sens de sa théorie de l'évolution, qu'il a élaborée par la suite, puisque la théorie de l'évolution, bien sûr, nécessite un temps énorme pour pouvoir se dérouler. Donc, je dis ça parce que le problème du temps est fondamental, bien entendu, dans le débat évolutionniste-créationniste. Je voulais aussi préciser simplement que ces dernières années, peut-être contre toute attente, après 2 siècles, je dirais quand même, de polémiques sur ce sujet, on pourrait penser que le débat va se diminuer. Et c'est le contraire, le débat ne fait que s'intensifier. La recrudescence est importante. Et pour citer Pascal Pic, qui est un paléoanthropologue, donc français, il dit dans son livre « Lucie l'obscurantisme » « Une des plus belles avancées des connaissances en science, l'évolution, est aujourd'hui rejetée comme jamais auparavant. » Voilà. Donc on est vraiment dans un débat intense à l'heure actuelle sur ce thème-là. Alors peut-être bien sûr vouloir parler ce soir de ce sujet-là peut paraître prétentieux à bien des égards, puisque comment apporter, je dirais, une pierre à l'édifice pour tenter de comprendre, disons, le débat qui oppose créationniste et évolutionniste. Disons, je n'ai pas du tout la prétention ce soir d'apporter des explications ou trouver la solution qui va permettre de comprendre enfin, mais disons peut-être quelques réflexions qui permettent peut-être d'élargir un peu le débat ou disons de le voir différemment. J'aimerais aussi simplement, peut-être c'est assez, je ne sais pas si tout le monde disons le sait, je pense que tout le monde sait, ça c'est certain, que c'est le 500e anniversaire de la naissance de Calvin. Je pense que ça a échappé à personne, surtout dans la région, surtout en ce lieu-là. Mais par contre, je ne sais pas si tout le monde sait que c'est aussi le 200e anniversaire de la naissance de Darwin et que c'est aussi le 150e anniversaire de la publication de son livre qui va être une bombe, qui est L'origine des espèces. Donc, je dirais, en 2009, parler de ce sujet, c'est, disons, d'autant plus polémique, je dirais, que c'est en même temps l'anniversaire de Calvin et l'anniversaire de, comment il s'appelle, de Darwin. L'anniversaire de Calvin, je tiens à préciser quand même que, bien sûr, bon, c'est pas mon domaine, mais quand même, le fondamentalisme américain, qu'il soit, disons, presbytérien, qu'il soit baptiste, qu'il soit évangélique, est de toute façon issu, de loin ou de près, du calvinisme.
Hein, non, enfin, bon. On peut en discuter, oui.
D'accord. Donc, et puis après, la deuxième chose assez particulière, c'est bien sûr aborder ces sujets dans la librairie Jean Calvin. C'est aussi un autre aspect assez particulier de cette rencontre. Alors oui, maintenant je vais quand même essayer de rentrer dans le vif du sujet. Alors peut-être simplement, très brièvement, quelques points qui valent la peine d'être dits pour comprendre quelle a été la perception de l'âge de la Terre. Depuis l'Antiquité, on peut dire que, en tout cas grâce à Aristote principalement, l'âge de la Terre n'a pas de commencement. Voilà. Pour Aristote, la Terre est éternelle. Elle a toujours existé. C'est sa perception à lui, qui n'est pas partagée par tout le monde, notamment par les stoïciens. Mais Aristote a influencé énormément les pères de l'Église, et on peut dire l'Église officielle, l'Église catholique particulièrement, de manière colossale. C'est très très important de bien le souligner. On peut dire donc que pendant des années, des siècles même, on ne va pas tant chercher à savoir quel est l'âge de la Terre. On va rester, disons, sur cette idée que la Terre est éternelle. De toute façon, le premier verset de la Genèse n'est pas très explicite quant au commencement même de la Terre. Donc on ne cherche pas trop à savoir. On reste sur cette idée-là. La première idée, disons, enfin, il y a eu quand même, dès l'Antiquité, des volontés, des désirs de chercher quel était l'âge de la Terre, notamment en lisant la Bible. Mais disons, on ne s'y est pas trop arrêté. Les généalogies, on avait repéré que ça pouvait être peut-être une méthode pour trouver l'âge de la Terre, mais disons, comme je vous dis, on ne s'y était pas trop arrêté, ce n'était pas trop le problème. On restait sur la pensée d'Aristote, ça arrangeait tout le monde, et puis voilà. On peut dire que là où ça va commencer à changer, c'est au XVIIe siècle, avec un évêque irlandais qui s'appelle Usher, qui est le premier à, disons, proposer une approche raisonnée de l'âge de la Terre basée sur la Bible. Alors, il arrive au bon moment, cet évêque irlandais, parce que c'est au XVIIe siècle qu'il va avoir cette démarche-là. Et le XVIIe siècle, c'est un siècle coincé entre le XVIe, la Renaissance, où on aime bien revenir, bien sûr, aux textes anciens et essayer d'aller chercher la vérité dans les textes anciens, Et c'est aussi le XVIIe siècle, il est coincé avec le XVIIIe siècle, qui est quand même le siècle des Lumières, où, pendant le siècle des Lumières, on va vraiment mettre la raison en avant, et l'approche raisonnée des choses sera louée, et donc toute approche raisonnée paraîtra authentique et vraie. Donc il arrive, je pense, à un bon moment pour que, disons, sa démarche soit authentifiée et reconnue comme très valable. Alors qu'est-ce qu'il propose, cet évêque irlandais ? Eh bien, tout simplement, il prend les généalogies bibliques, qui sont quand même assez précises, et il se propose de remonter jusqu'à Adam et d'intégrer, bien sûr, les 7 jours de la création considérés comme 24 heures, dans les 6 jours, pardon, de la création considérés comme 24 heures, après avec Adam, pour arriver à un âge de la Terre qu'il estime à 6000 ans par rapport, donc, disons, au moment où il est, c'est-à-dire, si vous voulez, à peu près, on estime que la Terre est arrivée, à peu, enfin, disons, la Terre a été créée en 4004 avant Jésus-Christ. Voilà, il arrive à cette date-là, et même encore plus, de manière plus spectaculaire. Ne me dites pas comment, parce que je ne l'ai pas trouvé. Il arrive, lui, ou un autre, mais disons, je ne sais plus, à la date du 23 octobre 4004, à 9h du matin. Voilà. Alors, c'est la première fois, quand même, que, si vous voulez, on raisonne de cette manière-là, et ça va faire son effet. Ce qui fait que cette idée que la Terre est jeune va quand même imprégner la pensée populaire, enfin la pensée populaire, la pensée des personnes, parce que, disons, cette approche raisonnée est incontestable. Voilà. C'est logique, c'est clair, c'est basé sur la Bible, qu'on ne remettra jamais en question, bien entendu. Donc, le document est infaillible, et l'approche est raisonnée, donc c'est la vérité. Donc, la Terre est jeune. Mais c'est donc une logique qui est née, la logique créationniste, on peut dire, d'un âge jeune de la Terre. Ensuite, il y a une autre logique qui va se développer à partir du XVIIIe siècle, qui est aussi une autre logique basée sur la raison, qui est celle, bien sûr, des évolutionnistes. C'est-à-dire qu'eux, à l'inverse, ils vont considérer qu'il faut analyser la nature, il faut l'observer, et qu'après tout, eh bien, la nature est aussi un livre qu'on peut examiner avec la raison. Donc, en observant la nature, ils vont s'apercevoir que les 6000 ans d'âge pour la Terre, c'est quasiment impossible. Parce qu'il y a trop d'événements géologiques inscrits dans la nature, du style des marques de transgression marine, des marques de régression marine, c'est-à-dire la mer qui avance sur le continent, la mer qui recule, ou alors il y a tellement aussi de fossiles qui prouvent qu'il y a eu des changements faunistiques, si vous voulez, qu'au final, ou des marques de volcanisme, des marques de séisme ancien, des marques, on pourrait dire, d'érosion de chaînes de montagnes, tout ça s'est inscrit dans le paysage actuel, et que donc, en 6000 ans, ça paraît incroyable que toutes ces données puissent tenir. Donc, peu à peu, par cette approche raisonnée de l'observation de terrain, eh bien, on va se rendre compte que, si vous voulez, les 6000 ans liés à l'approche raisonnée de la Bible, eh bien, n'ont pas l'air de tenir la route. Voilà. Et donc, peu à peu, on arrive au 19e siècle. Pour la majorité des géologues, la Terre est ancienne. Elle ne peut pas être jeune, ce n'est pas possible. Donc, la confrontation entre le créationnisme, qui a sa logique à lui, et l'évolutionnisme ne va cesser d'augmenter, bien entendu. Alors, j'aimerais quand même simplement préciser que la logique d'une Terre ancienne est indépendante de l'idée des... Comment dire ? C'est une idée indépendante qui est d'ailleurs antérieure à l'avènement de Darwin. C'est-à-dire que l'idée que la Terre est ancienne, on peut avoir cette idée-là sans être évolutionniste, après tout. Mais il faut bien distinguer les deux. Mais il est clair, comme je le disais tout à l'heure, que le fait que la Terre est ancienne va servir la cause de l'évolutionnisme. Et dans ce sens-là, les créationnistes, c'est ce qu'on va voir maintenant, vont s'opposer à une Terre ancienne, parce que s'ils ne s'y opposent pas, déjà parce que, première raison, c'est une approche raisonnée de la Bible, et que ça plaît, et la deuxième, s'ils ne s'y opposent pas, eh bien, il laisse une porte ouverte à l'évolutionnisme. Je ne sais pas si j'étais clair, mais voilà le problème. Donc, la logique créationniste, maintenant j'aimerais un peu parler de la logique créationniste. Alors, on a expliqué comment ils sont arrivés à ces 6000 ans, mais il faut savoir qu'à ce niveau-là, les créationnistes actuels, là je vais parler vraiment des créationnistes fondamentalistes, on est bien d'accord, donc ceux qui prennent à la lettre la Genèse, disons qu'ils oscillent entre 6000 et 10 000 ans pour la Terre, ça dépend de la manière dont on lit les généalogies et la manière dont on va interpréter aussi le verset 1, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Quels sont leurs arguments donc ? Alors les arguments pour une Terre jeune sont de divers ordres. D'abord biblique. Donc comme je l'ai dit, les généalogies bibliques. Ça c'est le grand truc. On raisonne sur les généalogies bibliques qui sont quand même assez précises. Ensuite, il se base sur les 6 jours de la création de 24 heures. Voilà, ils estiment que ça a duré 24 heures et que les jours dont il est question dans le texte ne peuvent être que des jours de 24 heures. Voilà. Ensuite, si vous voulez, ça c'est plutôt, on va dire, des arguments bibliques, bon, liés au texte, à ce qui est écrit dedans. Il y a des arguments doctrinaux aussi. Alors, un des arguments doctrinaux, disons, peut-être les plus importants et qui méritera peut-être dans un deuxième temps, lors de la discussion ouverte, de voir ensemble, c'est le problème de l'origine du mal. Et il est très important. Alors, je vous cite ce que les créationnistes disent. Ça provient de ce livre-là, hein, Nos origines en question. Donc, c'est écrit par des créationnistes américains fondamentalistes. Et ils expliquent, si vous voulez, l'ensemble de leur position. C'est tout à fait abordable, ça se lit bien. Et le problème du temps, notamment, est abordé là-dedans, leur perception des choses. Hein, donc, je l'ai tiré de ce livre-là. Donc, je vous lis. Si les jours de la création sont en réalité des âges géologiques de millions d'années, le message évangélique est détruit dans ses fondements, car la mort, les maladies et la souffrance auraient existé avant la chute. Cette idée révèle aussi une mauvaise approche des Écritures, celle qui consiste à soumettre l'interprétation de la parole de Dieu aux théories faillibles des hommes pécheurs. Voilà ce qu'ils disent. Hein, donc je ne vais pas m'attarder parce que je pense qu'il y a des questions, on reviendra là-dessus après, parce que je n'ai pas le temps. Mais bon, ça mériterait donc de discuter de tout ça, bien entendu. Le deuxième argument un peu doctrinal, enfin, je ne sais pas si c'est le terme bien choisi, doctrinal, mais disons qu'ils mettent en avant, c'est l'autorité verbale et plénière de la parole. C'est-à-dire que pour eux, donc je vais les citer, toujours le même ouvrage, le peuple de Dieu doit se rendre compte que la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi, ce ne sont pas des paroles d'hommes, ne considérons pas la Bible simplement comme un chef-d'œuvre littéraire, le peuple de Dieu se doit de trembler à sa parole, dans les manuscrits originaux, chaque lettre, chaque mot est là, parce que Dieu l'a voulu là. Hein, donc, si vous voulez, l'idée c'est que comme, de toute façon, la parole est inspirée par Dieu, elle est inspirée, disons, dans sa totalité, mais elle est inspirée aussi dans le choix des mots. Et donc, si les mots ont été utilisés, par exemple le terme « jour » est utilisé, on ne va pas le discuter pour s'arranger, s'accommoder avec la science officielle d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est leur position. Ensuite, ils ont aussi une autre approche des choses. Ils estiment qu'on ne peut pas envisager une terre ancienne parce qu'il en va de la clarté de la révélation biblique. C'est-à-dire que pour eux, si il faut interpréter les jours de la création en ère géologique, alors on quitte la simplicité biblique. C'est-à-dire que pour eux, la révélation biblique ne peut être que claire, simple, accessible à tous. Et ils citent par exemple un texte, je ne sais plus, c'est des psaumes, des proverbes, où il est dit, je crois que c'est les psaumes, où il est dit que Dieu rend sage les ignorants. Hein, il donne l'intelligence aux ignorants, etc. Donc, et sa parole est claire pour tout le monde. Donc, si vous voulez, pour eux, c'est impossible qu'il y ait un langage symbolique derrière la Genèse, parce que ça serait trop compliqué. Si la parole utilise des termes simples, c'est pour que tout le monde comprenne, même, je dirais, le moins intelligent, et puisse devenir sage. Voilà. Ensuite, ils disent aussi, autre argument doctrinal, c'est qu'ils estiment que si il s'agit d'ère géologique, eh bien, ça remet en cause l'enseignement du sabbat. C'est ce qu'ils disent, je vous lis. La semaine de 7 jours ne trouve sa raison d'être que dans l'Écriture. Dans ce passage de l'Ancien Testament, Dieu ordonne à son peuple, Israël, de travailler pendant 6 jours et de se reposer pendant 1 jour. Voilà la raison pour laquelle il a délibérément étalé son acte créateur sur 6 jours. Il a pour l'homme créé un précédent exemplaire et notre semaine y trouve son modèle. Maintenant, si Dieu avait tout créé en 6000 ans ou 6 millions d'années, on aurait là une semaine particulièrement intéressante. Bien sûr, c'est ironique, pour montrer que pour eux, ça remet en cause l'enseignement du sabbat. Et enfin, dernier aspect, ils mettent en avant des arguments scientifiques. Alors, ils n'ont pas élaboré, contrairement souvent à ce qu'on peut les penser, enfin, croire ou entendre dire, ils n'ont pas élaboré de modèles scientifiques vraiment qui tiennent la route, hein, pour expliquer le jeune âge de la Terre, mais ils se plaisent, en tout cas, à collecter plein d'arguments scientifiques qui remettraient en cause une Terre ancienne. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, on en parlera peut-être après, si vous avez des questions sur ce sujet-là, pour voir le style d'argument. La logique évolutionniste, je vais aller très vite, 4,55 milliards d'années, voilà l'âge de la Terre. C'est sûr que par rapport aux 6 000 ou 10 000 ans des créationnistes, disons, ça fait bizarre quand même. 4,55 milliards d'années, je dirais, c'est même difficilement concevable. Alors, qu'est-ce qui va permettre, là, en deux mots, pour aller très vite, qu'est-ce qui va permettre donc aux évolutionnistes d'arriver à un tel âge? deux choses essentielles. Alors, les deux révolutions scientifiques, et non plus philosophiques, parce que la Terre soit ancienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça date pas de hier, c'est Aristote qui l'a déjà souligné, c'est vieux, c'est très très vieux, mais c'était une approche philosophique. Ici, il s'agit d'une approche scientifique. Et quelles sont les deux révolutions scientifiques qui vont véritablement permettre de concevoir une Terre ancienne? Eh bien, la première, c'est, comme je le disais en introduction, l'avènement de Charles Lyell. Donc, cet homme-là, c'est un géologue écossais du 19e siècle, qui est le père de la géologie moderne. Il publie en 1830 un livre qui s'appelle « Principes de géologie ». Et dans ce livre, il va s'opposer à une théorie scientifique extrêmement en vogue à l'époque, et surtout au XVIIIe siècle, le catastrophisme. Et lui va mettre en avant deux idées maîtresses qui marquent toute la géologie, qu'on enseigne encore aux élèves en tant qu'enseignant, je l'enseigne. C'est que les deux principes se résument en deux mots. L'actualisme, c'est le premier terme, alors j'explique ce que c'est. C'est la pensée selon laquelle les phénomènes du passé doivent toujours être interprétés à la lumière de ceux du présent. En particulier leurs causes, leurs conséquences et leur durée. Donc ça veut dire que lui, il suggère que pour interpréter le passé, parce que vous, quand même, il faut bien comprendre le problème, revenir dans le passé pour découvrir l'âge de la Terre, je dirais, mais comment faire? Il faut une méthode. Laquelle on va avoir? C'est pas évident, quand même. Alors, parce que là, on n'a pas de manuscrit, on n'a rien, hein, bien sûr. Il s'agit plus d'histoire, là. On est dans des temps, je dirais, bien avant que l'homme soit là, même. Alors, il faut une méthode. Et lui, il estime que cette méthode-là, elle doit se baser, on doit observer ce que la nature a enregistré, et on va interpréter tous ces enregistrements, par exemple séisme, traces volcaniques, régression, transgression, marques de sédimentation, marques d'érosion, toutes ces choses-là, on va les interpréter en termes d'intensité et de durée sur le modèle de ce que je vois aujourd'hui dans la nature. Voilà. Il n'y a pas de pour lui, il estime que c'est plus raisonnable d'envisager que les choses dans le passé se sont déroulées comme elles se sont déroulées aujourd'hui, avec les mêmes lois, avec la même intensité. Bien sûr, c'est séduisant, on peut le remettre en cause si on veut, mais c'est séduisant et c'est très raisonnable de réagir comme ça. Sa deuxième pensée, qu'il met en avant dans son livre, c'est la pensée d'uniformitarisme qui s'oppose au catastrophisme. C'est-à-dire que pour lui, si vous voulez, il n'est pas besoin d'invoquer des événements catastrophiques pour expliquer l'histoire de la Terre. On peut y aller tranquillement, de manière graduelle, et on peut expliquer, de manière graduelle en regardant les faits aujourd'hui dans la nature, on peut expliquer les choses anciennes sans faire appel à des événements catastrophiques. Voilà. Et il va baser toute la géologie là-dessus, et toute la géologie moderne est basée sur ces deux grands principes. Voilà. Donc ça va ouvrir la voie à ce qu'on appelle la chronologie relative, c'est-à-dire qu'on va chercher, à replacer les événements géologiques dans une échelle de temps, même si on ne peut pas leur donner de date, on va les replacer les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc on va pouvoir peu à peu dresser une frise d'événements géologiques. Ensuite, la deuxième, bon, je passe sur les détails, c'est un peu compliqué, mais on en reparlera si vous le souhaitez. La deuxième découverte qui va lancer le boom donc, de l'estimation de l'âge de la Terre, ça c'est fondamental, c'est la fin du 19e siècle, c'est la découverte de la radioactivité. Donc la découverte de la radioactivité et les travaux qui y sont liés, notamment avec les Curie, début 20e siècle, va permettre de découvrir enfin ce qui manquait, une horloge pour remonter le temps. Parce qu'on n'en avait pas jusqu'alors, on ne pouvait que replacer relativement des événements géologiques les uns par rapport aux autres, mais on n'était pas capable de donner des dates. Et là, avec la découverte de la radioactivité, on est capable. Pourquoi? Parce que le phénomène radioactif, si vous voulez, on en reparlera, il existe des atomes instables qui se désintègrent, si vous voulez, dans le temps, selon une loi exponentielle décroissante qui est fort connue et qu'on maîtrise et qu'on comprend. Voilà. Donc, si vous voulez, on possède une horloge et on est capable de dater des événements. C'est ainsi qu'on peut peu à peu arriver, bon, je passe sur les détails, on va arriver à ces 4,55 milliards d'années en datant des minerais, d'uranium notamment. On va dater aussi, après l'arrivée sur la Lune, la marche sur la Lune, on va pouvoir dater les roches lunaires, etc. Et on arrivera à ces 4,55 milliards d'années. Voilà, donc il y a une logique évolutionniste incontestable, au même titre qu'il y a une logique créationniste. Nous sommes devant deux logiques, et c'est bien ça le drame pour beaucoup de chrétiens, du moins de gens qui veulent croire en la parole de Dieu, c'est, je dirais, comment associer les deux. Alors j'aimerais simplement terminer, peut-être sur ce qui est plus important, mais je vais aller assez vite quand même, C'est, si vous voulez, il y a deux tendances dans le monde, je vais simplifier, hein, mais il y a quand même deux tendances dans, chez les chrétiens, enfin le milieu, au niveau du christianisme, de ceux qui reconnaissent la parole comme, disons, faisant autorité. Vous avez une tendance concordiste, une tendance littéraliste. Donc la tendance littéraliste, j'ai dit que c'est celle qui caractérise le fondamentalisme donc, américain, hein, des églises protestantes américaines, si vous voulez, c'est l'idée qu'ils vont contredire la science officielle et ils vont adopter une lecture littérale de la Genèse. Ça, c'est la première manière de faire dont j'ai parlé. L'autre, c'est le concordisme. Alors, eux, ça les dérange de critiquer la science officielle, qui présente une logique quand même, je dirais, plus qu'impressionnante quand même, parce qu'il y a deux siècles de travaux, mais de travaux solides, et que c'est un peu facile quand même de balayer tous ces travaux d'un revers de manche parce que ça ne nous convient pas. Donc, eux, ils sont d'accord plutôt d'essayer de caler la lecture de la Genèse sur les données scientifiques et essayer d'y trouver une correspondance. Voilà, donc c'est deux manières d'aborder la Genèse radicalement différentes, animées toutes les deux de deux logiques au final. Alors, moi, la question que je pose, c'est est-ce possible de dégager parmi ces deux logiques de lecture de la Genèse, qu'elles soient littéralistes ou concordistes, est-ce possible de distinguer quelle est la meilleure? A-t-on des arguments qui permettent de dire quelle est la meilleure des deux? Biblique, bien sûr. Alors, pour ça, pour essayer de répondre à cette question-là, je vous partage quelques pensées, parce que je n'ai pas de formation théologique, disons, digne de ce nom, mais je vais quand même un petit peu évoquer quelques pensées. C'est d'abord, c'est intéressant de voir dans la Bible le rapport de la personne de Dieu même au temps. C'est quelque chose d'intéressant. D'abord, la première réalité que la Bible met largement en avant, c'est que Dieu est l'auteur de la création et qu'il ne se confond pas avec elle. Il est hors de sa création. Nombreux versets bibliques le montrent très clairement. Dieu n'est pas enfermé dans sa création, il en est en dehors, la terre est son marchepied et l'univers ne le contiendrait même pas. Voilà, c'est la première chose. La deuxième, qui est intéressante, c'est la révélation de Dieu à Moïse. Ça c'est, je pense franchement, un des versets peut-être les plus mystérieux d'ailleurs, c'est un verset mystérieux, mais qui est quand même très intéressant. Il est dit donc dans le texte d'Exode, quand Dieu va se présenter à Moïse, parce que Dieu lui dit « Mais qui tu es? Quel est ton nom ?» Et il va répondre, Dieu répond « Je suis ». Celui qui suit. C'est bizarre comme manière de se définir. On l'appellera ainsi l'Éternel, celui qui est, qui a toujours été, qui est. Mais c'est pas dit, c'est pas écrit quand même. Celui qui a été et qui sera et qui est, c'est dit celui qui suit. Je suis celui qui suit. Voilà, c'est ce qui est marqué. Je dirais cette perception-là est quand même bizarre de Dieu. Elle laisse quand même entendre que Dieu ne s'inscrit pas dans une logique de temps. Puisque la logique du temps, il n'y a pas de temps sans passé, présent et futur, bien entendu. Or, la révélation que Dieu va donner à Moïse, disons, est en dehors du temps, puisqu'il est celui, je suis celui qui suis. Je ne m'inscris pas dans une logique de temps, du tout. Bien sûr, ça nous échappe complètement, parce que nous, par contre, nous sommes dans une logique temporelle, je dirais, indiscutable. Et c'est pourquoi imaginer que Dieu, disons, est en dehors d'une logique, et que pour lui, il est éternellement présent, ou disons, sa composante, c'est toujours le présent, et qu'il n'y a ni futur ni avenir, paraît bizarre. Mais enfin, le texte, quand même, laisse entendre ces choses. Alors, il y a d'autres versets qui vont dans ce sens-là, qui montrent que Dieu ne s'inscrit pas dans une logique temporelle. Regardez, ces versets, vous les connaissez. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand ils passent, et comme une veille de la nuit, tu les emportes. Ils sont comme un instant de sommeil qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe, et on la coupe le soir, et elle sèche. » Dans deux pierres, mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Autrement dit, je dirais, la perception du temps de Dieu n'est pas la nôtre, du tout, du tout. Autre chose aussi, c'est que cette idée quand même est importante que Dieu serait hors du temps. Alors bon, on pourrait en discuter, bien entendu. Cette idée est partagée notamment par une personne, une femme, une philosophe qui s'appelle Chantal Delsol, et je vous la cite parce que c'est quand même intéressant ce qu'elle dit. Je trouve très intéressant. Elle dit « L'éternité des monothéismes n'est pas la durée infinie de ce que nous avons vécu ici-bas, mais une autre vie, mystérieuse, épargnée des pièges du temps, non pas une poursuite sans fin de la vie, mais une échappée vers une autre vie libérée du temps et donc de la répétition. C'est pourquoi l'immortalité, figure immanente de l'éternité, est un leurre, tant qu'elle habite un monde qui se meut dans le temps. » Autrement dit, l'idée quand même de cette femme, et c'est intéressant je trouve, parce que je dirais, ça donne une autre dimension, je dirais, à la personne même de Dieu, c'est que Dieu est hors du temps, Et donc, si vous voulez concevoir que Dieu est éternel, c'est concevoir un être qui n'a pas une durée infinie, pas du tout, mais qui échappe au temps. Il est hors du temps, complètement, quoi. Et ça, c'est quelque chose donc, de bien sûr qu'on a du mal à comprendre pour les raisons que je disais tout à l'heure, mais disons qu'il donne une autre dimension totalement à, je dirais, à la personne même de Dieu, et qui, je crois, est juste quand même, à bien des égards. Alors, l'éternité, si vous voulez, c'est pas un temps, hein, que ce soit clair, ce serait pas un temps indéfini, c'est une absence de temps. Voilà, c'est plutôt ça, l'éternité. Et je trouve ça très intéressant, parce que bien souvent, quand on parle d'éternité, les gens devant eux se disent, mais l'éternité, mais... Enfin, j'ai déjà entendu les gens me parler comme ça. Dit, mais l'éternité, c'est... on va s'ennuyer quand même. Parce que c'est quand même, comment on va faire tout le temps la même chose? Louer Dieu, comme il est dit dans l'Apocalypse, au siècle des siècles. Mais c'est une perception temporelle que nous avons de l'éternité. Mais l'éternité, c'est une absence de temps. C'est éternellement présent. Autrement dit, il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est éternellement le présent. Et donc, si vous voulez, c'est insaisissable à nos sens, bien sûr. Ensuite, la deuxième chose dont je voudrais parler quand même, c'est le rapport des œuvres de Dieu au temps, qui est très complexe dans la parole. Donc là, j'ai parlé, si vous voulez, de la personne de Dieu par rapport au temps. Mais maintenant, il y a autre chose que la parole nous montre, c'est le rapport des œuvres de Dieu au temps. Alors, je voudrais simplement donner un petit exemple dans l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, si on examine les prophéties, leur rapport au temps est très complexe, extrêmement complexe. Par exemple, si vous prenez Ésaïe 13, Ésaïe 14, je crois que c'est ça, sur les prophéties que Ésaïe va donner au peuple sur notamment les jugements qui doivent s'abattre sur Babylone et la restauration dont Israël doit être l'objet, eh bien, il y a, quand on examine la prophétie, c'est en deux chapitres, c'est tout expliqué, il est dit ce qui va se passer, Babylone va être châtiée, les ruines, Babylone va devenir une ruine, un repère pour les chacals, etc. Enfin, il y a des expressions bien particulières. Si on examine comment cette prophétie s'est déroulée dans le temps et s'inscrit dans le temps, eh bien, on a de quoi être surpris. Parce que si on examine comment les choses se passent, eh bien, le jugement sur Babylone, Babylone, effectivement, va être renversé historiquement, bon, ce n'est pas mon domaine, mais disons ce que j'ai compris, va être renversé, bien sûr, par les Mèdes et les Perses. Donc, il y a un jugement qui va tomber sur Babylone, sur le peuple babylonien, les Chaldéens. Mais disons, si vous voulez, la ville de Babylone va perdurer hein, pendant un bon moment. Il va falloir attendre l'ère, le début de l'ère chrétienne pour que la ville de Babylone soit abandonnée et qu'elle devienne véritablement, selon la prophétie d'Ésaïe, qui met tout dans le, je dirais, dans le même chapitre, hein, il n'y a pas de différenciation de temps, qui met tout sur le même plan. Il y a quand même, je ne sais pas en termes de temps, mais il y a peut-être 600 ans de différence qui va s'écouler, si vous voulez, entre la chute véritablement de l'Empire des Chaldéens et, je dirais, Babylone qui deviendra une véritable ruine, quoi. Donc autrement dit, si vous voulez, l'accomplissement de la prophétie est multiple. Elle a des rebondissements dans le temps. Elle s'est accomplie au moment donc de la prise du, enfin de la chute de l'Empire chaldéen. Elle s'est accomplie au début de l'ère, disons, chrétienne par l'abandon de Babylone, qui est devenu effectivement un repère de chacal. Et puis, dans le même sens, parce que dans la prophétie sur la chute de Babylone, en même temps, il est décrit la restauration d'Israël, mais la restauration d'Israël, je dirais, elle s'est passée sous Néhémie, Esdras, tout ça c'est vrai, mais la véritable restauration d'Israël, finalement aussi, elle s'est réalisée au moment où, disons, Israël s'est retrouvé dans sa terre après 48, quoi. Autrement dit, l'accomplissement, on peut aussi le voir jusqu'en 48. Et puis, si on lit encore ce texte d'Ésaïe 13 et Ésaïe 14, on s'aperçoit que le jugement sur Babylone dépasse le cadre de la nation babylonienne et qu'en réalité, si vous voulez, c'est un jugement sur les nations, un jugement beaucoup plus général qui, lui, est repris dans l'Apocalypse et donc, a priori, qui ne s'est pas encore réalisé. Autrement dit, si on cherche à faire coller les prophéties bibliques qui annoncent l'œuvre de Dieu dans une logique temporelle et une chronologie historique très claire, on va s'arracher les cheveux parce que c'est très difficile. Et on a le sentiment, si vous voulez, que la prophétie se réalise par étapes et elle s'amplifie dans sa réalisation même. Donc, vouloir coller la prophétie à une logique temporelle évidente, je pense que ce n'est pas possible. Et je me demande, d'une certaine manière, si ce n'est pas pour ça que les prophéties ne doivent pas faire l'objet d'interprétations particulières, à cause de ce problème-là. Par contre, l'enseignement biblique qui est derrière est fondamental. Et lui, le temps n'a pas de prise dessus. Il est éternel, cet enseignement. Mais en revanche... l'inscription de la prophétie dans la chronologie, disons, de l'histoire, je dirais, prête à beaucoup de discussions, bien entendu. La deuxième chose, alors on pourrait dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Alors ce rapport des œuvres de Dieu au temps, c'est vrai, elle est complexe, mais c'est l'Ancien Testament. Mais non, mais dans le Nouveau Testament, on a le même problème, regardez bien. Si je considère l'œuvre de la croix, alors on va considérer d'abord ce qu'on appelle l'œuvre objective de Christ. Christ est mort à la croix, et il est dit que lorsqu'il est mort à la croix, les écrits pauliniens le disent très clairement, il a remporté la victoire sur les puissances mauvaises. Il a, je dirais, détrôné les puissances mauvaises, il est le victorieux. Donc c'est réalisé, je dirais, au début donc, de notre ère, de manière incontestable. Pourtant, Paul lui-même dira, je crois que c'est Paul ou c'est dans Hébreux, je ne sais plus très bien, effectivement, tout lui a été soumis, mais nous ne voyons pas encore que les choses lui ont été soumises. Autrement dit, il apparaît très bien aussi dans l'œuvre objective de Christ qu'il s'est déjà réalisé, il y a déjà quelque chose qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui est encore appelé à se faire. Hein, c'est ce qu'on appelle, enfin, en théologie, j'ai entendu que c'était ça, le déjà et le pas encore. C'est déjà réalisé, mais ce n'est pas encore réalisé totalement. Enfin, c'est bizarre, quoi. Autrement dit, la relation même de l'œuvre de Christ au temps est complexe à comprendre. Mais l'œuvre subjective de Christ aussi, de la même manière. Je donne un exemple. Il est dit dans la Bible qu'en Christ, nous sommes déclarés saints. Saints et justes et justifiés. Saints, quoi. Et pourtant, on le sait bien, la parole nous appelle à nous sanctifier. C'est-à-dire que je suis appelé, en quelque sorte, à devenir, ça c'est quelque chose que l'on connaît bien, à devenir ce que je suis. Et ça aussi, c'est une relation complexe autant. Comment devenir ce que je suis ? Tu dirais, rationnellement, c'est insaisissable. On a le sentiment que cette œuvre même subjective de Christ, je dirais, le temps n'a pas de prise sur elle. C'est bizarre, quoi. Autrement dit, je voudrais simplement montrer par là, si vous voulez, que les relations, la relation de la personne de Dieu au temps est très complexe, à mon sens. La relation des œuvres de Dieu au temps, c'est aussi très complexe. Et je pense que ça défie, je dirais, notre amour de rationalité et d'évidence. Voilà, franchement, c'est difficilement compréhensible. Il y a quelque chose qui nous échappe ici. Et je crois que ça nous échappe parce que Dieu et ses œuvres ne sont pas prisonnières du temps, justement. Il en est au-dessus. Je dirais, le temps, au final, comme disait saint Augustin, déjà bien longtemps à l'avance, fait partie de sa création, il en est l'auteur. Et donc, il n'est pas enfermé dedans. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, certainement, Dieu est omniscient. Parce qu'il peut savoir ce qu'est le passé, il peut savoir ce qu'est le futur, il peut savoir ce qu'est le présent, parce qu'il n'est pas du tout dans une logique temporelle. Donc, bien sûr, la question que je pose une fois qu'on a pris conscience de tout ça, sachant que cette idée de la relation des œuvres de Dieu au temps est très complexe, d'après ce que dit la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, peut-on donc appliquer à la lecture de la Genèse une lecture du temps qui correspond à notre vision temporelle des choses? On peut se poser la question. Alors, c'est-à-dire, est-ce que ces jours, ces 6 jours de création, 7, le jour du repos, est-ce que c'est à comprendre avec une logique temporelle qui est la nôtre? Alors, quelqu'un... Parce que si la logique qui anime le récit de la Genèse, c'est la logique qui anime les prophéties, eh bien, je pense qu'on fait une fausse route dans notre interprétation de la Genèse. Alors, quelqu'un pourra me dire, oui, mais la Genèse, c'est pas une prophétie. Mais l'œuvre de Christ... C'est pas non plus une prophétie, c'est dans le Nouveau Testament, c'est bien réalisé. Et pourtant, sa relation au temps est très complexe aussi. Par ailleurs, quand même, le texte de la Genèse, c'est pas un livre... Enfin, attention, je pense pas qu'on puisse le ranger dans un récit de type historique. Puisque c'est quand même quelque chose de très particulier, c'est une révélation de Dieu à Moïse, à laquelle personne n'a assisté, bien entendu. Donc on est plus quand même dans une révélation, bien sûr. Alors... Peut-on donc avoir une lecture concordiste ou littéraliste? À mon sens, c'est risqué. Parce qu'il me semble quand même que la relation de Dieu au temps est complexe. Et j'ai peur qu'en voulant, disons, comprendre les choses avec une logique qui est la nôtre, eh bien finalement nous cherchions à enfermer les œuvres de Dieu, telles qu'elles sont décrites dans la Genèse, dans une logique temporelle qui nous est finalement, qui nous est pas donnée, quoi. Parce que l'homme n'y avait pas accès, tout simplement, à ces choses-là. Je me pose la question, d'une certaine manière, après tout. Ce qui est dit dans le premier jour, c'est accompli, c'est dit. Premier jour, c'est accompli. Deuxième jour, telles choses se sont faites. Troisième jour, telles choses se sont faites. Mais si la logique qui anime ces textes et les choses que Dieu a faites de cette manière-là est la même que celle des prophéties, ou celle, donc, comme j'ai dit, de l'œuvre subjective ou objective de la croix, on peut se demander si tout est pleinement fait. Et si ce n'est pas en devenir, après tout. Mais pour Dieu, c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas si... Voilà, je pense que, en prenant en compte toutes ces choses, je ne sais pas, il me semble quand même que l'entreprise concordiste et l'entreprise littéraliste sont quand même un peu mises à mal, quoi. Alors, je voudrais terminer simplement en disant que cette perception, on va me dire, vous pourriez me dire, mais c'est quand même un peu délirant, puisque ça échappe à la rationalité, bien entendu, cette perception du temps. Mais il me semble quand même, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand même la physique moderne a laissé une porte très ouverte justement à cette perception très malléable du temps. Et ça, c'est intéressant aussi à souligner. Dans la physique moderne, si vous voulez, la physique moderne défie notre, quand même, largement défie notre rationalité. Pourquoi ? Alors, je vais donner un exemple. Dans la physique moderne, notamment la physique relativiste issue des travaux d'Albert Einstein, eh bien, il est possible de concevoir de voyager dans le futur. C'est-à-dire, par exemple, donc je n'insiste pas trop, ce n'est pas trop mon domaine, mais quand même, bon, disons, je veux le préciser pour montrer que, disons, des choses qui défient notre rationalité, il n'y en a pas que dans la lecture de la Bible. Hein. Je dirais même la physique moderne nous y conduit à bien des égards. Albert Einstein, donc par les travaux de relativité, montre, par exemple, que deux jumeaux qui seraient nés en même temps, s'il y en a un qui part de la Terre dans une fusée et qui vole, disons, suffisamment rapidement, eh bien, et qui revient sur Terre, eh bien, il est possible que celui qui a fait le voyage en fusée ait, si vous voulez, ait vieilli d'un an, et que le même jumeau qui est resté sur Terre, lui, soit déjà mort. C'est bizarre quand même. C'est-à-dire que, si vous voulez, les travaux d'Albert Einstein montrent que le temps est relatif et qu'il n'est pas absolu, comme on l'a cru longtemps avec Newton, et puis je dirais comme on l'a toujours perçu. Le temps est relatif. C'est-à-dire que, en fait, l'espace n'est pas un espace à trois dimensions, mais à quatre, où le temps est une des composantes. C'est-à-dire que quand je voyage dans l'espace, je voyage dans le temps. C'est bizarre, ça, quand même. Et ça, ça défie, les évidences de notre raison. Je dirais, alors bien sûr, c'est des travaux basés sur des équations physiques, mathématiques, etc. Personne ne l'a jamais réalisé, mais la physique montre que c'est possible. Et c'est quand même étonnant, quoi. D'ailleurs, la physique montre que l'espace est un espace-temps, et que le temps fait partie de l'univers, et que le temps est inscrit dans l'univers. Or, c'est quand même intéressant, parce que tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer quand même que la Bible a l'air de montrer que Dieu est hors du temps. Mais Dieu est hors de sa création, bien entendu, puisqu'il en est l'auteur. Or, la physique moderne associe le temps, bien entendu, à l'espace. Il est donc, je dirais, même si ce n'est pas une preuve en faveur de la Bible, parce que s'il n'y a pas de preuve scientifique à chercher en faveur de la Bible, c'est par la foi, on le sait bien, mais quand même c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une logique qui est assez, enfin, une approche qui est un peu similaire, enfin, il y a des points communs quand même, c'est assez étonnant. Voilà, je ne vais pas trop insister, peut-être j'ai déjà assez parlé, le temps est passé, mais voilà, en tout cas, disons, il me semble que si vous voulez, pour conclure, en deux mots, l'approche, que ça soit, c'est pour ça qu'il me semble que dans notre lecture de la Genèse, il faut vraiment être très prudent. C'est ça peut-être l'idée, en tout cas, que j'en tire moi. Il faut être très prudent, parce qu'à vouloir raisonner, j'ai peur qu'on raisonne, disons, avec une vision, vous savez que, bon, grâce à Descartes, ou malgré Descartes, j'en sais rien ce qu'il faut en penser, mais enfin, en tout cas, Descartes nous a tellement influencés que, de toute façon, n'est vrai que ce qui me paraît évident. Hein, c'est ça, en fait, Descartes, c'est sa pensée, quoi. Donc, quand on dit, ce qui est vrai, c'est ce qui est évident à ma raison, ce qui est raisonnable pour moi. Mais... même si ma lecture de la Genèse, il me semble que je cherche à la faire cadrer dans ce qui est raisonnable et cohérent dans ma pensée, disons, il me semble que c'est plutôt une lecture de Descartes, ça, la manière de Descartes, et il me semble plutôt que ce que Dieu nous dit de la parole défie notre raison. Et c'est difficile, il ne faut pas les lire de cette manière-là. Et d'ailleurs, la physique moderne défie notre raison aussi, il me semble, à bien des égards. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Pascal pour tous ces éclaircissements tant sur les conceptions scientifiques des évolutionnistes ou les positions des créationnistes et puis aussi tous les éclaircissements bibliques très intéressants. Et maintenant je vous laisse la parole, donc si vous avez des questions, des remarques à faire à Jean-Pascal, lancez le débat, la parole est à vous. Voilà, Stéphane.
Dans le temps.
Écoute,
la mort, elle est autour de trois liens.
Oui. Alors, écoute, c'est cette démarche-là, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le problème, alors je ne vais peut-être pas répondre à ta question comme tu l'attendrais, mais bon, disons, ce qui est sûr, c'est que le problème du péché originel par rapport au temps et de surtout de ses conséquences est quand même assez fondamental. Alors, je ne sais pas si tout à l'heure, vous avez bien prêté attention à ce que j'ai dit, mais pour les créationnistes, par exemple, le problème du péché originel ne peut se situer dans un temps que très, très précis. Hein, parce que, par exemple, si vous voulez, pour les créationnistes, comme je l'ai lu, le péché originel, c'est lui qui va introduire la mort dans le monde. Donc, si vous voulez, pour eux, il est inconcevable qu'il y ait eu mort avant le péché originel. Parce que si la mort a eu lieu avant le péché originel, ça ne va pas. Il y a un problème dans la lecture de la Bible. Donc autrement dit, pour les créationnistes, si vous voulez, il est évident que la mort doit avoir eu lieu, enfin que le péché originel doit avoir eu lieu pour que la mort ait lieu. Donc, pour eux, pour les fondamentalistes, donc créationnistes, si vous voulez, le péché originel va avoir pour conséquence la mort, donc avant le péché originel, absence de mort. Hein, pour eux, c'est... donc il n'y a pas d'êtres vivants qui ont pu mourir avant. Mais je ne crois pas que je réponds à ta question.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que le péché est hors du temps ?
Non, parce que en fait, justement, quand tu expliques très clairement que ce qui peut définir Dieu, c'est le fait qu'il n'est pas inscrit dans le temps de la création.
Oui.
D'accord ? Et justement, en même temps, le péché originel
s'inscrit dans le temps.
Il s'inscrit dans le temps. Enfin, il est inscrit à un moment donné. Dans
tout à fait.
Les enfants ne sont pas morts, ils sont tout le temps vivants. Et alors, donc là, ça fait un peu penser à ce que tu dis par rapport à Dieu. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas, avant le péché originel, participerait pas de la même absence de temporalité que Dieu ?
Tu parles pour Adam et Ève ?
Oui. Et qu'à ce moment-là, c'est le péché originel.
Alors, je vais te dire. Je vois ce que tu dis. J'ai mieux compris. Non, en fait, moi, je pense, si tu veux, que ce n'est pas juste de parler comme ça. Enfin, il me semble, bibliquement, je ne sais pas ce que les uns et les autres pensent, mais ce n'est pas juste. Parce que, si tu veux, dans l'idée de ce que je voulais dire, Dieu est l'auteur du temps. Autrement dit, quand il crée l'univers, crée la terre, il crée le temps en même temps. C'est ce que Saint Augustin pensait d'ailleurs. Donc autrement dit, ça se voit bien dans la Genèse. C'est pour ça que je pense quand même que la relation au temps est très claire dans la Genèse, puisqu'il est question de jours qui se déroulent. Donc à partir du moment où Dieu crée l'univers, enfin il me semble, maintenant on n'y était pas, je pense qu'il faut être à ce niveau-là très humble, mais il introduit le temps. Donc, son œuvre est inscrite dans le temps. Et l'homme se retrouve immédiatement dans le temps, bien entendu. Donc, l'homme, bien entendu, s'inscrit dans le temps. Il n'était pas dans cette période, où le temps était absent. D'autant que l'homme n'arrive que le sixième jour, hein, à la fin de tout, j'ai envie de dire, quoi. Donc, non, l'homme est inscrit dans le temps. Je crois que ce n'est pas juste bibliquement de le dire. Il n'y a que Dieu qui est hors du temps. Que Dieu, quoi. Sa création, elle, s'inscrit dans le temps.
D'autres remarques, questions ? Oui, l'un ou l'autre des Stéphane.
Oui, la notion de la création de la Terre, telle qu'elle est définie dans les textes bibliques, est-elle crédible ? Est-ce qu'elle a des failles ? Je crois qu'on en a déjà parlé entre nous.
Il y a une logique qui anime, bien sûr, hein, comme je l'ai dit, une logique créationniste qui anime la datation de l'âge de la Terre. Et ils arrivent à un âge qui est jeune avec une logique, je dirais, un peu incontestable, hein, puisque c'est basé sur un raisonnement. Et j'ai dit que cette logique a bien plu parce qu'elle est tombée au bon moment. Elle a plu, elle est entre la Renaissance et puis le siècle des Lumières. Donc, bon, ben, c'est une approche raisonnée. Alors, où sont les failles de cette approche raisonnée ? Bon. Disons que leurs arguments sont, comme je le disais tout à l'heure, alors là, ça peut nous amener loin, hein, cette discussion.
Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples d'arguments scientifiques qu'ils avancent pour justifier leur datation ?
Scientifique ?
Oui.
Alors, si vous voulez, ils n'ont pas d'arguments scientifiques pour justifier le jeune âge de la Terre. Pas vraiment. S'ils en ont un, peut-être.
Ce qu'ils considèrent, eux, comme scientifiques.
Disons plutôt qu'ils ont des arguments scientifiques qui contrediraient l'âge ancien de la Terre. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont proposer comme argument scientifique ? Ils ont des arguments pris dans le domaine de l'astronomie, des arguments pris dans le domaine de la géologie et de la géophysique. Alors, je vous en donne quelques-uns, par exemple. Dans le domaine de l'astronomie, enfin non, je vais prendre plutôt la géologie. Dans le domaine de la géologie, attendez, si je vous prends, si vous voulez, l'astronomie, je me remets en tête un tout petit peu. Voilà, par exemple, voilà, un argument, si vous voulez, qu'ils ont mis en avant, c'est la poussière lunaire. Lorsque les missions américaines sont arrivées sur la Lune, on s'attendait, si vous voulez, à ce qu'ils se retrouvent sur, 6-7 mètres de poussière. Donc, on pensait qu'ils allaient s'enfoncer dans la poussière lunaire. Pourquoi ? Parce que, les météorites sont tombées, en tout cas au début de la formation du système solaire, mais encore aujourd'hui, il y a des météorites qui tombent, bien sûr, sur la Lune, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, autrement dit, ça pulvérise les roches du sol, les roches volcaniques du sol. Donc, on s'attendait, puisque la Lune a été particulièrement bombardée, et elle est encore plus que la Terre aujourd'hui, tout au moins la Terre l'est aussi, mais elle est protégée pour son atmosphère, eh bien, on s'attendait à ce que les roches soient énormément fracturées, abîmées, et donc, si vous voulez, qu'il y ait une épaisseur de poussière énorme, puisque 4,55 milliards d'années pour l'âge du système solaire, c'est énorme. Ça a eu le temps de se pulvériser de nombreuses fois avec les météorites. Donc, on s'attendait à une épaisseur énorme. Or, quand les missions Apollo sont arrivées sur la Lune, ils sont tombés sur une épaisseur de poussière extrêmement faible. Les créationnistes en ont conclu. C'est impossible que le système solaire soit vieux, puisque l'épaisseur de poussière lunaire est très faible. Voilà un argument, par exemple, scientifique. Mais si vous voulez, toujours, dans les arguments scientifiques proposés par les créationnistes, les scientifiques, la science officielle, a aussi des arguments. Or, l'argument, disons, des sciences, des scientifiques, c'est qu'ils estiment que l'argument que proposent les créationnistes ne vaut et nul, excusez-moi l'expression, parce qu'ils ne sont pas tendres entre eux dans le débat, c'est moins qu'on puisse dire. Ils disent que c'est nul, parce que tout simplement, lorsqu'une météorite tombe, elle vitrifie une partie de la poussière. C'est-à-dire que, si vous voulez, elle provoque un conglomérat, c'est-à-dire que les poussières lunaires s'agglutinent. Elles se vitrifient, elles sont liées par un verre. Autrement dit, c'est plus de la poussière. Il n'y a que la surface supérieure qui est de la poussière. Voilà. Et ça, bon, disons, ça a été reconnu aussi. Et voilà. Hein, donc, autre argument qu'ils vous donnent, alors je me prends dans le domaine plutôt de la géologie, ils disent que si la Terre est aussi ancienne que le disent les évolutionnistes, la mer devrait être beaucoup plus salée que ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, un argument, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le sel des océans provient du ruissellement des eaux qui passent sur les roches. Autrement dit, ce sont nos fleuves qui salent la mer. Voilà. Or, si ça fait déjà si longtemps que la Terre existe, ils disent que l'océan aurait dû, disons, il devrait y avoir encore beaucoup plus de sel que ce qu'il y a aujourd'hui. D'ailleurs, des calculs, hein, en tenant compte effectivement de la quantité de sel actuelle qu'on trouve dans les roches, on conduit des gens à estimer l'âge de la Terre. Moi, je ne sais plus exactement comment ils ont fait. Je vous dis tout de suite. Voilà, que ce n'était pas possible, a priori, que la Terre ait plus de 92 millions d'années. Vous allez me dire, oh, c'est déjà pas mal quand même. Ouais, mais on est loin des 4,55 milliards d'années. Voilà le genre d'argument. Mais si vous voulez, les scientifiques rétorquent, c'est pas exact. De toute façon, aujourd'hui, il faut bien comprendre que le problème de salinité de la mer est hyper complexe. Il est lié, et c'est vrai, à des pertes, non seulement à des apports liés aux eaux de ruissellement, mais aussi à des pertes énormes, parce que le siège est piégé, notamment dans les roches évaporitiques, par exemple. Et donc, si vous voulez, il y a des pertes en sel colossales. En plus, si vous voulez, les scientifiques estiment que le bilan en sel de la Terre est très complexe, parce qu'il faut tenir compte aussi des échanges entre le fond des océans et la croûte océanique, où l'eau s'infiltre et s'enrichit en minéraux et ressort. Autrement dit, le bilan est très complexe et l'approche des créationnistes est pour eux, je dirais, trop simpliste. Voilà. Mais là, on peut y perdre son latin, hein, dans ce débat-là. Parce que, je dirais, chacun aligne des arguments. Mais il me semble quand même, si vous voulez, pour peut-être tirer un peu une conclusion de cet aspect-là, c'est que quand même, les arguments scientifiques, les scientifiques n'ont pas tout expliqué. Il y a des choses, c'est vrai, notamment sur le champ magnétique terrestre, qui sont un peu particulières. Mais on n'a pas tout expliqué. Mais la logique, quand même, de la science officielle, donc je n'appelle pas évolutionniste volontairement, hein, parce que le temps, ce n'est pas directement lié à l'évolutionnisme, mais la logique temporelle qui anime les sciences officielles est très solide, quand même, très solide. Scientifiquement, bien sûr.
On garde la géologie, d'être, etc., suivant les conditions d'aujourd'hui. Même en gardant ces deux prérequis, ça me semble logique. Parce qu'en fait, par exemple, en ce qui concerne le catastrophisme, encore jusqu'à récemment, on considérait que, par exemple, les dinosaures ont disparu parce qu'il y a une météorite qui est arrivée ou qu'il y a eu une catastrophe majeure.
Tout à fait. Voilà, en fait, si vous voulez, l'uniformitarisme de Liel, tel qu'il a présenté, c'est-à-dire tout se serait passé tranquillement, graduellement, etc., a été remis en cause, en fait. Effectivement, notamment par ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, dans le passé de l'histoire de la Terre, on sait qu'il y a eu des événements majeurs, de type catastrophique, effectivement, qui ont marqué l'histoire de la Terre, notamment des impacts météoritiques qu'on retrouve, réellement, hein, parce que c'est, on voit ces impacts-là. Et effectivement, ça remet en cause ce côté un peu uniforme des événements géologiques, tout à fait. Hein. Donc aujourd'hui, si vous voulez, bon, c'est Liel qui a impulsé cette géologie moderne. L'idée vraiment majeure de Liel, qui est encore exploitée aujourd'hui, si vous voulez, et que bon, je pense ceux qui ont fait une terminale scientifique, ils ont été confrontés à ça, c'est que je vais interpréter ce que je vois dans la nature au regard des événements actuels. Voilà. Et ça, ce n'est pas remis en cause, parce que c'est une approche raisonnable, on va dire. Discutable, mais raisonnable. Plus raisonnable. Maintenant, l'aspect graduel de l'histoire de la Terre et le fait que les choses sont passées tranquillement, ça s'est remis en cause, effectivement.
Vas-y, Patrick.
Est-ce que tu as trouvé une définition du temps ?
Non. Si, je peux t'en donner une, mais je m'y risquerai certainement pas. Je vais te donner celle de Saint Augustin, que peut-être plusieurs connaissent. Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Non, mais je vous le dis comme ça, mais c'est très compliqué. Hein. En fait, la notion de temps, et c'est pour ça que bon, je sens le piège dans ta question, la notion de temps est une notion hyper complexe, d'ailleurs, comme celle de la vie. Hein. Une notion de vie hyper complexe. Chercher à définir la vie, c'est facile de donner des caractéristiques du vivant, c'est facile de donner, je dirais, des caractéristiques de mesure du temps, mais définir l'objet lui-même, c'est insaisissable. Et pourtant, on en a une conscience, je dirais, indéniable. D'ailleurs, qui nous différencie des animaux.
Je crois que les gens qui font un peu l'amalgame des deux, ou qui situent un peu plus au milieu, parce qu'entre un âge de 6000 ans et un âge de 4000 ans, est-ce qu'il y a des gens qui font un peu l'amalgame, même s'ils n'ont pas donné de réponse, mais qui situent un peu plus au milieu?
Non. Non, parce que de toute façon, soit on adopte la lecture de la science, et donc c'est 4,55 milliards d'années, ou alors, disons, on adopte la lecture, je dirais, des créationnistes, qui n'est pas scientifique, hein, quand même, mais disons, qui est biblique, enfin biblique, qui est basée sur la Bible, plutôt, on va dire ça. Et entre les deux, non, enfin, ma connaissance, il n'y a pas de... C'est pour ça que la tendance, ce serait de... pour certains chrétiens, de pratiquer, comme je disais tout à l'heure, le concordisme. C'est-à-dire, on va avoir une lecture qui concorde avec les données scientifiques. Entre les deux, il n'y a aucune théorie scientifique qui propose un âge qui serait autre, si c'est ça que la question. Aucune. C'est 4,55 milliards d'années.
Stéphane ?
Disons que c'est ce qu'un peu j'ai voulu montrer quand même, c'est-à-dire j'ai voulu montrer que vouloir rendre les 6 jours de la création hyper étanches avec aucune possibilité de... il me semble que c'est une logique très humaine des choses, mais les œuvres de Dieu échappent au temps, même si elles s'inscrivent dans le temps. Donc je ne pense pas qu'il faille voir quelque chose de trop étanche, effectivement. Maintenant, qui le sait? Qui peut dire que c'est comme ça qu'il faut voir les choses? Tu vois, je sais pas quoi. Autrement dit, je peux pas te dire. J'ai envie de dire oui, mais je ne sais pas non plus. Je sais pas si on peut se l'autoriser. Parce que se l'autoriser, ça peut satisfaire la raison. Je sais pas si on peut se le permettre bibliquement. Maintenant, parce que ça nous arrange. Maintenant, il me semble que la Bible l'interdit pas non plus complètement, parce que la relation des œuvres de Dieu au temps est complexe.
Oui, Thomas.
Tout à fait.
Et maintenant,
oui.
Quelque part, c'est un acte de foi, ça. Est-ce qu'on peut échapper dans ce débat à un acte de foi, quelque part, qui n'est jamais scientifique?
Alors,
dans ces deux concepts, ça veut dire qu'il y a toujours un moment où les gens ne peuvent plus démontrer scientifiquement quelque chose.
Oui. Alors, je ne sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un acte de foi. Je dirais que c'est un acte raisonnable. Voilà. Je dirais plutôt ça. Parce que si tu veux, le fait de dire, a priori, les éruptions volcaniques fonctionnaient de la même manière, le dynamisme éruptif avait les mêmes causes et les mêmes conséquences il y a 6 millions d'années qu'aujourd'hui, tu es d'accord? Que tu vas me dire, je ne crois pas qu'on puisse dire c'est un acte de foi. Je crois que c'est plus raisonnable de penser comme ça. Mais alors c'est ouais alors sauf si c'est pas c'est à dire que si tu veux lui quand il l'a fait il s'est basé sur des études de terrain quand même hein, c'est à dire que si tu veux il s'est rendu compte que non mais d'une certaine manière tu as raison c'était une nouvelle méthodologie qu'il a introduit qui était basée là-dessus mais je trouve que disons prêter à cette démarche le terme foi même si je comprends ce que tu veux dire parce que c'est un postulat c'est ça que tu veux dire. Mais quand même, c'est un postulat raisonnable, j'ai envie de dire. Et c'est en ça qu'il séduit, bien entendu. Parce qu'il est plus raisonnable de penser que le dynamisme éruptif était le même dans le passé. Et voilà, c'est pour ça que le terme foi me paraît un peu exagéré, même si je comprends ce que tu veux dire, c'est un postulat. Mais un postulat qui ne sera pas remis en cause, car il est raisonnable. Mais discutable, on peut le discuter. Oui, d'accord, mais si tu veux, les scientifiques, si tu veux, restent sur l'idée que, bien sûr, il y a un commencement aux choses, ils sont bien d'accord, mais pour eux, les lois n'ont pas changé, elles sont restées les mêmes. C'est ça le principe d'actualisme. Enfin, moi personnellement, en tout cas, je comprends la démarche scientifique, je peux l'appliquer, je peux l'enseigner. C'est une démarche scientifique, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Raisonné, raisonnable, mais c'est tout.
Bon, la question qui se pose, c'est que aussi peut-être, c'est ce que tu as. Enfin, je pense que c'est ce que tu as essayé un peu de montrer, c'est que à la fois dans la démarche scientifique, mais à la fois dans la démarche créationniste, il y a quand même une volonté de rationalisation. Les créationnistes veulent rationaliser le texte biblique et l'expliquer de manière extrêmement logique, hein, tu l'as répété plusieurs fois, et les évolutionnistes aussi. Et au fond, et là je reviendrai à Calvin, qui me semble n'était pas si fondamentaliste que ça. Mais il y a cette idée, Isaac Calvin, déjà, à un moment, devant cette contradiction, parfois même de la révélation, et devant l'incompréhension de l'homme face aux œuvres de Dieu, de s'abandonner. Et c'est ce que, un peu, tu nous as exhorté à faire ce soir, il me semble, plus ou moins. Hein. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un abandon. Je ne peux pas expliquer, mais à la limite, je peux accepter les théories scientifiques sans que ça remette en cause ma foi, parce qu'il me semble que Dieu est au-dessus de ça et que, en fait, la réponse appartient à Dieu. Après, la manière dont les choses strictement doivent se mettre en place, à la limite, ça ne nous appartient plus. Quoi. La Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas.
Je voulais simplement peut-être faire aussi une précision. C'est que, bien entendu, il y a un courant de pensée, de nombreux théologiens, notamment Henri Blocher, qui estiment que la lecture de la Genèse doit être une lecture littéraire. Je n'ai pas abordé du tout ce point-là, moi, ce n'est pas mon domaine du tout. Mais disons, je voulais montrer que, si vous voulez, au-delà, ça peut être aussi un argument très intéressant. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, je pense que beaucoup le connaissent. Ce livre est très intéressant, d'Henri Blocher, Révélation des origines, quand même, puisqu'il montre bien la semaine et la lecture littéraire qu'on doit en avoir selon lui. Mais moi, ce que je voulais montrer, si vous voulez, dans l'exposé que j'ai fait, c'est qu'il me semble que la notion de temps biblique, telle qu'elle nous est donnée à lire par la Bible elle-même, sans invoquer, si vous voulez, un style littéraire ou quoi que ce soit, ne nous permet pas de contingenter dans une logique temporelle notre lecture de la Genèse.
Je pense qu'il faut faire très attention. On retrouve ce problème sur un plan historique, comme tu l'as dit un peu, notamment dans les textes narratifs, des chroniques ou des rois, ne serait-ce que l'agencement successif des événements qui sont relatés. Pas les chapitres, puisque les chapitres ont été ajoutés après, mais cet agencement successif des faits qui sont relatés ne sont pas forcément relatés, et on le sait bien, dans une succession chronologique. Tel que nous, on connaît l'histoire. Donc, on a le sentiment, quand même, comme tu l'as dit, que la notion, le rapport de Dieu au temps n'est pas un rapport qui semble aussi fondamental qu'on veut bien le faire croire aujourd'hui.
Tout à fait.
Voilà. Qui, d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est peut-être une réflexion, mais c'est quand même Kant qui a posé comme a priori de toute connaissance humaine le temps et l'espace comme catégorie, plus les 12 autres catégories. Et on pourrait se demander aussi là, il n'y a pas une influence de Kant dans cette espèce de fixation sur les notions de temps et de l'espace qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les sciences, voire même dans la réflexion théologique parfois.
Est-ce qu'on peut dire que dans les évolutions scientifiques, donc évolutionnistes, il y a non pas des actes de foi, mais des actes de mauvaise foi à la place de l'évolution?
C'est un peu tendancieux.
Alors la première question c'est est-ce que les évolutionnistes ne font pas preuve de mauvaise foi, c'était ça? L'évolutionnisme postule, et c'est là qu'il y a un acte de foi entre guillemets, ou de mauvaise foi on va dire plutôt, de mauvaise foi postule qu'on peut expliquer le monde sans faire appel à Dieu, par les lois de la physique. Ça, si vous voulez, c'est un postulat qui n'est pas scientifique, qui est évolutionniste, qui est philosophique. D'accord ? Donc, si tu veux, un vrai scientifique, j'ai envie de dire, mais moi je ne sais pas si ça existe, parce que l'objectivité scientifique, on peut en discuter longtemps, mais disons, un vrai scientifique sait que son domaine d'application, le champ d'investigation des sciences, est lié au matériel, et qu'il y a plein de données qui lui échappent. Et un scientifique sait, de par sa méthodologie qui est matérialiste, qu'il n'a pas accès à la métaphysique. Autrement dit, il n'a pas accès à Dieu. Il ne pourra pas dire que Dieu n'est pas derrière les actes créateurs, ou qu'il n'est pas derrière ce qu'il voit ou ce qu'il a analysé dans la nature. Il ne peut pas le dire. C'est impossible. Donc, le scientifique évolutionniste qui veut mettre Dieu aux oubliettes fait preuve de mauvaise foi, dans la mesure où il postule quelque chose qui, de toute façon, est un postulat. Je J'étais assez clair. Tu étais d'accord avec ça?
Oui, non, mais c'était...
Voilà. Je pense que c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut placer l'acte de foi plutôt que de la méthodologie de Liel, à mon avis.
Il n'y a pas un livre de Hawkins qui vient de sortir là-dessus?
Oui, alors justement, vous avez un livre effectivement de Hawkins qui, si vous voulez, son livre qui sort, alors c'est un généticien, qui dit « Pour en finir avec Dieu ». Voilà, c'est son titre. Bon, là, je pense que plusieurs l'ont dû le voir, hein, c'est pas mal vendu. « Pour en finir avec Dieu », ça montre bien la logique évolutionniste poussée à son extrême, mais j'insiste bien, qui est surtout finalement philosophique dans sa démarche. Alors, pour revenir à la deuxième question, c'était... c'était quoi ? Littéral. Alors effectivement, si vous voulez, un des arguments donc, des littéralistes, c'est de dire que comme l'autorité de la parole est verbale et plénière, on ne peut pas avoir une lecture autre que littérale de la parole. Alors, si vous voulez, c'est exagéré, il semblerait, pourquoi ? Parce que, bon, ça paraît exagéré, parce que, si vous voulez, il ne faut pas, bibliquement, enfin je vais essayer parce que bon, on peut raisonner comme on veut, et puis on peut discuter, et puis on n'est pas d'accord, mais je pense quand même que bibliquement, ça ne tient pas trop la route, parce que, bien sûr, les mots choisis sont des mots qui sont a priori été choisis sous inspiration de Dieu, enfin c'est ce qu'on croit quand on croit en l'inspiration plénière et verbale des Écritures. Mais ça ne signifie pas que le mot hors de tout contexte a un sens non plus, à lui tout seul. Par ailleurs, ça ne signifie pas non plus, si vous voulez, qu'il faut s'attacher à la lettre. Et ça, je dis, la Bible le montre, puisque même Jésus le disait, mais vous vous attachez à la lettre, et puis vous ne voulez pas venir à moi, etc., pour avoir la vie. C'est pas dans la lettre que se trouve l'explication des choses. C'est quand même dans l'esprit. Alors, il y a des mots qui sont utilisés, mais ces mots, c'est pas leur remise en cause, si vous voulez, je sais pas comment dire. Il y a un attachement, enfin, il me semble, qu'il y a un attachement à la lettre, si vous voulez. C'est pas là que se situe l'autorité de la parole. Il n'est pas là-dedans. C'est pas dans la lettre, c'est dans l'esprit, bien entendu. Et ça, la parole nous y encourage totalement à croire ça. Donc, autrement dit, s'attacher à des mots plutôt qu'à l'enseignement qui est derrière, disons, me paraît une exagération. C'est au même titre que je vais m'attacher, je ne sais pas moi, aux dates qui me sont données des prophéties, avec tel jour, telle durée, etc. Alors que l'enseignement de la prophétie elle-même, je le laisse complètement à la trappe. Hein, donc, mais il y a toute une frange effectivement de la chrétienté qui s'attache comme ça aux mots et pour qui, disons, je dirais, la lettre a une importance démesurée, mais je crois que c'est pas biblique.
Il y a aussi la question, de comment dire, quel texte a autorité, si tu veux, parce que on considère, disons, quand on est pour le monde évangélique en général, le monde évangélique en général non fondamentaliste considère que le texte qui a autorité, c'est le texte source. Sauf que le texte source, on ne l'a plus. Et donc aujourd'hui, le texte source, ce ne sont plus que des traductions qui nous sont données. On n'a plus accès au texte source. Donc s'attacher à un mot stricto sensu, c'est extrêmement dangereux. Ce qui fait que lorsque les humanistes du XVIe siècle, avant Luther et Calvin déjà, je pense notamment à Lefebvre d'Étaples ou à Erasme, hein, ont voulu traduire la Bible, c'était absolument révolutionnaire. Et c'était inconcevable pour l'Église dominante de l'époque. Pourquoi ? Parce que ce qui faisait autorité, c'était la traduction de la Vulgate, faite par Jérôme. Mais ce n'est absolument pas ce que nous considérons... en tout cas dans la théologie évangélique, on va dire, ou même chez Calvin, hein, c'est le texte qui est inspiré de manière autoritaire, on pourrait dire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le texte source auquel on n'a plus accès.
Voilà. Donc après, ce sont des traductions avec des aléas. C'est pour ça aussi qu'il y a diverses traductions. Ensuite, l'autre question, pourquoi ça remet en cause ? Il y a aussi le livre de Dominique Lecourt qui en parle, L'Amérique entre la Bible et Darwin. C'est que chez les Américains, si vous voulez, ils font un lien très clair, et ça, ça vient de David Hume, ils font un lien très clair entre la révélation naturelle et la révélation scripturaire. Et au fond, remettre en question la révélation naturelle, c'est-à-dire la révélation dans la nature, attribuer la nature non pas à un Dieu créateur et ainsi de suite, mais à une évolution et ainsi de suite, c'est remettre automatiquement en cause la révélation scripturaire. Donc pour eux, les deux sont liés. Donc on ne peut pas parler d'évolutionnisme sans remettre en cause la révélation scripturaire. C'est, je dirais, c'est aussi un présupposé philosophique. Vous voyez ? Là encore. Et Dominique Lecourt, dans le livre « L'Amérique entre Bible et Darwin », montre ça de manière excellente. Et moi, ça m'avait beaucoup éclairé. J'avais compris pourquoi c'était une telle polémique, finalement, aux États-Unis, un peu moins en France, même si ça le devient, elle pique et tout ça. Hein. Pourquoi c'était une telle polémique, un tel clivage entre les évolutionnistes et les créationnistes. Je ne sais pas si tu as le temps, mais je pensais à la question de Jérôme. Non pas d'un point de vue chronologique, mais entre deux conceptions créationnistes et évolutionnistes. Il y a ce qu'on appelle aussi, mais je ne sais pas si c'est exact, l'intelligence design. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une conception un peu entre les deux ?
Oui, tout à fait. Oui, enfin, oui et non, parce que bon, d'abord, ça ne rentre pas sur. Dans l'intelligence design, il ne change pas l'âge de la planète. Hein, je veux dire, ça reste 4,55 milliards d'années. L'intelligence design, c'est l'idée qu'il y a un sage architecte qui est derrière les choses. Et que si évolution y a eu lieu, c'est quand même dirigé par Dieu, enfin par un sage architecte.
C'est à ça que je pense.
Ah, c'est ça,
oui. Enfin, moi, je n'osais pas le dire, mais moi, je pensais à ça. Mais est-ce qu'il y en a qui me disent ?
Oui, bien sûr.
Parce que je crois.
Tout à fait.
Mais c'est peut-être un peu primaire, parce que je pense là, et j'ai toujours cru ça, je ne suis pas beaucoup penché sur la Genèse, mais j'ai toujours cru un peu ça en arrière-plan, comme ça, tout en étant d'accord, en mettant en question. Tu vois, ce n'est pas du tout scientifique, mais je me dis un peu arrangé comme ça. Ma conscience, tu vois, mais est-ce qu'il y en a qui.
C'est-à-dire
que. Qui font un peu un amalgame, ce que tu as dit là, qui font un peu un amalgame des deux, c'est-à-dire que.
On croirait, disons, l'évolution aurait eu lieu, dirigée par Dieu. Voilà. Oui, bien sûr. Il y a toute une partie, effectivement, de la chrétienté, au sens large, qui, effectivement, adhère à cette pensée-là.
Scientifique,
il n'y a pas d'argument, si, il y en a plein, justement, puisque, je dirais, ça va dans le sens de la science officielle.
Ouais, mais après,
alors ça contredit la Bible, c'est là que disons le débat peut être violent, quoi, disons. C'est que effectivement, est-ce qu'une telle position contredirait les récits de la Genèse ? Et là, disons, la discussion peut être très large.
Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions ?
Oui, je suis étonné que nous n'ayons pas parlé donc, dans cette discussion du déluge. Parce que pour moi, il y a deux théories dans le monde. Il y a la théorie de l'évolution et la théorie du créationnisme catastrophique. Le catastrophisme remet en cause un des deux postulats de Yale, comme quoi les choses ont toujours été comme on les voit, puisque pendant le déluge, à mon point de vue, les choses ont été beaucoup plus vite que ce que je vois maintenant. Donc les phénomènes qui sont observés dans la géologie, on ne peut pas les expliquer de la même manière que ce qui se forme actuellement si on adopte la théorie du catastrophisme. Et dans la Bible, il y a marqué que des montagnes se sont élevées et tout. Donc, il faudrait tenir compte dans le débat Moi, j'ai calculé la Terre en additionnant les âges des patriarches et tout ça, je l'ai fait. Donc, j'ai situé le déluge à une certaine date. Et donc, le déluge, c'est très important.
Tout à fait. Mais j'en ai pas parlé parce que je manquais de temps. C'est le cas de le dire, mais disons, bien sûr, dans la vision créationniste, vous avez tout à fait raison, le déluge occupe une place majeure, parce que bien entendu, comment expliquer, si vous voulez, les transformations, tous les faits géologiques qu'on note, il faut une catastrophe énorme qui puisse expliquer, effectivement, qu'autant d'événements, autant d'archives sédimentaires puissent s'accumuler, et ils estiment que c'est dans la période du déluge. Alors après, est-ce que c'est valable scientifiquement cette position ? Donc là, disons, ça pourrait prêter à de larges discussions. Disons quand même, je pense quand même pouvoir dire, en tant que prof, disons, de science, que la lecture créationniste dont j'ai lu des livres, j'ai lu leurs théories, disons, dites scientifiques sur le déluge, disons, si vous voulez, sont scientifiquement percevables. Voilà. C'est, disons, ma démarche de scientifique.